Santé, une chronique libre autour des corps, du soin, des soignants,
soignantes,
des patients,
patientes
et du système de santé. La vache, une promenade radiophonique subjective autour de la vaccination. Premier épisode, de Pi bovin en bras enfantin, le Puvoga jusqu'en América.
Yo, the man if you know say the vaccine that the girl them want to put it in. Yo, ladies, me the vaccine them vaccine. Galor, Jenny, Lucky, Static. Me have a girl say she just fly. Hannah said that she want quarantine. What? So when me do me give her the vaccine? Right away. When me do me give her the vaccine? Come from a papa pee. And I see her boyfriend I should leave. What? So when me do me give her the vaccine. Right away. When me do me give her the vaccine. Mm-hmm. She buck up on him on a RG. And the boy now produce the scene. No. When me do me give her the vaccine. Right away. When me do me give her the vaccine. Vaccine, Maxine, come for your vaccine. Now your back arching, the syringe gone in. Vaccine, vaccine, you get a vaccine. Mm-hmm. Vaccine, vaccine, you get a vaccine. Vaccine, vaccine, come for your vaccine.
Comme l'a illustré la crise sanitaire de la Covid-19, la vaccination peut être à la fois objet de tous les espoirs, mais aussi porteuse de toutes les craintes. De la conception et de l'évaluation clinique du vaccin à son lancement dans la population et à la mise en place de l'obligation vaccinale, les débats suscités ont montré que le sujet de la vaccination s'étend bien au-delà d'une simple question médicale. Il y a là tous les ingrédients d'une série à suspense qui parlerait des libertés individuelles, mais aussi des choix collectifs, de la morale, de la santé publique et de son financement, de l'opacité des firmes pharmaceutiques, du pouvoir des médecins et des politiques, d'expérimentation humaine, de coercition. Mais la vaccination, c'est aussi une longue histoire, aux multiples chapitres, qui a commencé il y a fort longtemps. Comment rentrer dans le sujet sans se perdre, sans répéter ce qui a déjà été dit 1000 fois? Pour cette première émission, j'ai choisi par facilité de débuter par le commencement, en me laissant porter. On verra bien où ça mène. Alors en France, quand on parle des origines de la vaccination, il est généralement question de Louis Pasteur et du premier vaccin contre la rage en 1885. La belle histoire est largement connue et fait la fierté de l'Institut de recherche qui porte aujourd'hui son nom. En juillet 1885 donc, Pasteur a déjà développé un vaccin contre la rage chez le chien. Mais il ne l'a pas encore expérimenté chez l'homme. Un jour, une femme se présente à son laboratoire avec son fils, Joseph Meister, âgé de 9 ans. Qui a été mordu, tenez-vous bien, 14 fois par un chien enragé. Elle a entendu parler du savant et est venue le supplier d'essayer de sauver son enfant. À l'époque, la rage est une maladie mortelle contre laquelle il n'existe aucun traitement. Pour autant, les collaborateurs de Louis Pasteur ne souhaitent pas utiliser leur vaccin car il a uniquement fait ses preuves sur des animaux. Pasteur n'étant pas médecin, il confie au docteur Granchet, qui a réussi à le convaincre, le soin d'inoculer le traitement à l'enfant. En 10 jours, Joseph Meister reçoit au total 13 injections. Moins d'un mois plus tard, le verdict tombe, il est sauvé et Saint Pasteur est né. Écoutons Joseph lui-même nous raconter 55 ans plus tard comment il est devenu le premier Kobe humain.
Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il? Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc en quelque sorte servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Pasteur est un précurseur. Mais à l'époque, le principe général de la vaccination est déjà bien décrit. Les scientifiques ont compris depuis longtemps qu'il est possible de protéger une personne contre une maladie transmissible en l'exposant d'une manière ou d'une autre à une forme moins virulente, c'est-à-dire affaiblie du germe responsable, pour provoquer une forme bénigne de la maladie qui va ensuite protéger contre la forme mortelle. Avant de tenter le coup sur la rage, Pasteur s'est ainsi déjà fait la main sur le choléra des poules ou encore le charbon des moutons. À chaque fois, il arrive à isoler la bactérie responsable de la maladie, à la cultiver en laboratoire pour l'atténuer, avant de l'administrer aux animaux, qui sont ensuite protégés contre la bactérie sauvage. Pour la rage, c'est le même principe. Il parvient à isoler le virus à partir des cerveaux d'animaux morts de la maladie et permet le premier cas d'administration chez l'homme d'un vaccin vivant atténué artificiellement. Pourtant, l'histoire de la vaccination a commencé bien avant. Pour la retracer, on va s'intéresser à la variole humaine, une maladie aujourd'hui disparue, mais qui illustre bien toutes les facettes de notre sujet. On peut même dire qu'elle porte en elle tous les germes des débats qui vont traverser la société plusieurs siècles plus tard, lorsque la Covid fera son apparition. Germes, maladies, maladies, germes, vous avez compris, petit jeu de mots, non ? Alors vous n'avez aucun humour. Bref, l'histoire de la variole va me permettre, outre de raconter des anecdotes savoureuses, de poser des jalons pour la suite. Épidémie, propagation des maladies par les transports, expérimentation humaine, armes biologiques, savants fous, virus échappé du laboratoire, obligation et défiance vaccinale, tout
virus
est déjà là.
Infection. Alert. Warning. Virus infection. Alert. Virus infection.
Allez, on y va.
Alert.
Remontons le temps jusqu'au XVIe siècle. À l'époque, la variole fait des ravages dans les populations du globe. Elle circule depuis l'Antiquité et tient son nom du latin varius, qui signifie tacheté, ou de varus, pustule cutanée. Les personnes infectées développent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs lombaires et une forte fatigue. Elles peuvent aussi avoir des douleurs abdominales sévères et se mettre à délirer. Après 2 à 3 jours, des taches, puis des vésicules ou petites cloques remplies de pus apparaissent sur tout le corps. Les poumons, le cerveau et ou les os peuvent être infectés. Les épidémies de variole surviennent régulièrement, avec des taux de mortalité très élevés de 20 à 40%. Les survivants-survivantes restent défigurés par les cicatrices des pustules, mais deviennent totalement résistants-résistantes à la maladie. Aussi, la variole touche surtout les jeunes enfants. Cette observation d'une résistance qui se développe naturellement conduit, au moins dès le 1er siècle avant notre ère, à essayer de la reproduire en expérimentant la variolisation. Cette méthode consiste à collecter chez des malades qui semblent en voie de guérison du liquide au niveau des pustules ou des croûtes desséchées qui sont broyées. Ce prélèvement est ensuite inoculé, c'est-à-dire administré, aux personnes qu'on veut protéger, soit par scarification de la peau, soit par insufflation au niveau intranasal, un petit rail de variole en somme. Cette technique, qui prend en fait son origine dans des pratiques populaires répandues en Inde et en Afrique depuis des siècles, se répand en Chine et en Mésopotamie et finit, on saute quelques siècles, par arriver en Angleterre dans les années 1720, grâce à une certaine Lady Mary Wortley Montagu, la femme de l'ambassadeur anglais à Constantinople. Elle découvre auprès des femmes qui composent l'élite des harems ottomans la version locale de la variolisation, qui consistait à prélever un peu de pus variolique chez un enfant atteint d'une forme bénigne de la maladie, puis à l'insérer sous la peau de ceux qu'on cherchait à immuniser. Ayant elle-même survécu à la variole qui l'a laissée défigurée, elle décide de protéger son fils de cette manière et ramène la technique en Angleterre, où elle fait varioliser sa fille âgée de 3 ans en présence de médecins de la cour royale, qui valident le procédé sur quelques prisonniers et autres enfants abandonnés. Il faut dire qu'à l'époque, on ne s'embarrasse pas de considérations éthiques quand il s'agit d'expérimenter un traitement ou d'étudier une maladie. Les médecins travaillent directement sur le matériel disponible, détenus, esclaves, pseudo-folles, pseudo-fous, orphelins. La variolisation, qui est d'abord essentiellement utilisée par les nobles pour protéger leur famille, est relativement efficace mais présente un certain nombre de risques. Une forme grave de la variole survient en gros une fois sur 300. La protection obtenue reste aléatoire et la personne vaccinée est contagieuse pendant plusieurs jours. La technique s'améliore et se diffuse en Europe et aux Amériques, mais le nombre de personnes protégées reste faible et la variole continue de circuler tranquillement. Pourtant, en 1772, un événement va changer la donne et poser les bases de la vaccination telle qu'on la connaît aujourd'hui. Premier petit point scientifique utile pour la suite. La variole est une maladie qui a la particularité de circuler chez l'homme, mais aussi dans de nombreuses espèces animales, notamment les bovins. On sait maintenant qu'il s'agit de virus différents. Fin du point. Vous avez vu, c'est pas bien long, ni très scientifique d'ailleurs. En 1772, donc, un médecin anglais, Edward Jenner, qui pratique la variolisation dans les campagnes, découvre les personnes qui ont été infectées par une maladie qui touche les vaches sont résistantes à la variole humaine. Il comprend que la contamination se fait par contact avec des pustules qui apparaissent au niveau des pies des vaches et constate que la maladie provoque également des pustules sur les mains des vachers qui traient les vaches, comme la variole, mais qu'elle reste bénigne. Il a alors l'idée d'utiliser le germe, on ne connaît pas encore les virus à l'époque, qui circule chez la vache pour protéger contre la variole. Vous avez suivi ? Le 14 mai 1796, il passe à la phase expérimentale. Il prélève du pus d'une jeune treilleuse du nom de Sarah Nelms qui vient de se contaminer au contact d'une vache et l'inocule par scarification au fils de son jardinier, âgé de 8 ans, qui n'a jamais eu la variole. L'enfant tombe malade, mais se rétablit après des symptômes légers. Ce qui confirme déjà que la maladie de la vache peut se transmettre d'homme à homme. Pour valider son hypothèse initiale, le 1er juillet suivant, Jenner inocule directement un jeune garçon, James Phillips, rien moins que la variole humaine, directement. Ça passe ou ça casse. James ne développe heureusement aucun symptôme. Mais pour en avoir le cœur net, Jenner renouvelle l'expérience quelques mois plus tard. Oui, je sais, ça paraît fou, c'est sûr qu'à l'époque, on ne parlait pas de consentement éclairé. Mais au moins, l'histoire a conservé le nom des cobayes humains, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ça aussi, on pourra en parler un jour. Bref, là non plus, pas de signe d'infection, la première vaccination de Jenner est un succès. Il confirme l'efficacité de sa méthode sur d'autres personnes et lui donne le nom de vaccine, du latin vaca, la vache. Ses résultats sont publiés dans un article qui, contrairement à ce qu'il espérait, ne rencontre pas le succès escompté. Probablement pour plusieurs raisons. D'abord, cette idée d'inoculer à l'homme une maladie animale suscite bien des craintes et des résistances. Ensuite, Jenner n'a pas le profil idéal. C'est un médecin de campagne, un peu timide et donc pas forcément bien vu des médecins anglais des grandes villes. Mais il persévère, répète ses expériences sur des volontaires et publie un livre qui finit par convaincre de l'efficacité de sa méthode. L'ouvrage est traduit et largement diffusé. Son procédé est reproduit un peu partout dans le monde et c'est le début d'une grande campagne de vaccination contre la variole. En près de 40 ans, le nombre de morts va être divisé par 10, ce qui est énorme. Par rapport à la variolisation dont on a parlé tout à l'heure, la vaccination développée par Jenner présente bien des avantages. La vaccine n'est pas directement contagieuse d'humain à humain, il faut passer par la scarification. Elle immunise très bien contre la variole et s'avère beaucoup moins dangereuse, même si les personnes vaccinées peuvent faire une forme très atténuée. Pourtant, des contraintes limitent encore la généralisation de la vaccination. Au début, cette dernière dépend de la disponibilité du fluide vaccin, comme on dit à l'époque, qui est compliqué à obtenir car la maladie bovine est rare et qu'on n'a pas encore de frigo pour le conserver au froid. Il faut s'en remettre au hasard des épizooties dans le bétail pour pouvoir prélever les pustules sur l'épi. C'est pourquoi Jenner commence à pratiquer la vaccination dite de bras à bras. Deuxième point scientifique utile pour la suite. Après administration de la vaccine sous la peau d'un enfant, une papule apparaît au bout de 2 à 3 jours et évolue en vésicule puis en pustule en une dizaine de jours. Il est alors possible d'en prélever directement du liquide infecté pour l'administrer à un autre enfant, mettant ainsi en place une véritable chaîne de production, souvent à partir de très jeunes enfants en fait, qui sont vaccinés en série, voire à plusieurs endroits en même temps pour avoir suffisamment de pustules à extraire. Et oui, après avoir servi de cobaye, les enfants servent de réservoir à vaccins. Bon, cette méthode pose rapidement des problèmes de sécurité sanitaire, car la lymphe prélevée peut contenir d'autres germes transmissibles, dont celui de la syphilis et d'une forme de jaunisse qui était probablement l'hépatite B. Quoi qu'il en soit, elle est adoptée dans le monde entier en quelques années. D'abord dans des pays européens, puis à l'été 1799, la vaccine traverse l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. En 1801, elle atteint la Russie, puis l'Inde en 1802, l'Australie en 1804, les Philippines en 1805. On va en reparler plus loin. En France, malgré la guerre avec l'Angleterre, les premiers tubes arrivent à Paris en juin 1800 et le fameux fluide vaccinal est entretenu dans la maison du Saint-Esprit, près de l'hôtel de ville de Paris déclaré « hospice d'inoculation » où l'on recueille des enfants abandonnés. En 1809, un décret formalise ce système. 25 hospices d'enfants trouvés, désignés sous l'euphémisme administratif de dépôt de vaccins, sont chargés de l'entretenir. Au-delà de réservoirs, ces enfants servent aussi de terrain d'expérimentation pour acquérir les savoir-faire et l'expérience nécessaires à une vaccination optimale. Les vaccinateurs vont même jusqu'à essayer de reproduire des accidents qui pourraient survenir. Ils déposent du pus dans la gorge ou sur les muqueuses nasales afin d'étudier les complications respiratoires liées à la vaccine ou bien ils mettent la peau à vif et déposent quelques gouttes de vaccin pour étudier l'éruption cutanée. Les enfants sous tutelle appartiennent à l'État qui en dispose comme il le souhaite, comme une véritable marchandise. En 1804, deux chercheurs italiens, Michele Troia et Gennaro Galbiati, ont l'idée de revenir à l'hôte originel, la vache, et mettent au point une méthode de production à partir de la peau d'une génisse. Il faudra cependant attendre 1884 avant qu'elle soit officiellement recommandée. Maintenant, imaginez la scène. À partir de 1865, à Paris, les personnes qui le souhaitent sont vaccinées directement à partir du pus prélevé sur des vaches récemment infectées par la vaccine et qui sont promenées dans les rues. Ce nouveau procédé met du temps à diffuser et la vaccination de bras à bras perdure au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Au début de cette histoire, on a dit que la variole circulait à travers le monde depuis des siècles. Ce n'est pas complètement exact. En fait, les continents nord et sud-américains sont apparemment restés épargnés par la maladie jusqu'à l'arrivée des explorateurs colonisateurs européens. Dès le début du XVIe siècle, ces derniers importent avec eux le virus qui se répand au sein de populations qui ne sont pas du tout protégées. D'abord dans les Antilles et à Cuba, où c'est une véritable hécatombe qui se solde par des centaines de milliers de morts. Les Européens font rapidement venir des esclaves, dont certains sont porteurs de la variole, ce qui déclenche de nouvelles épidémies au fur et à mesure de la progression des Espagnols au Mexique et dans tout l'Empire aztèque. La maladie va dévaster les populations locales, tout en épargnant relativement les Espagnols plus résistants, car ayant déjà été en contact avec la variole. L'histoire se répète quelques années plus tard dans l'Empire Inca, qui est frappé par une épidémie avant même l'arrivée des Espagnols, qui n'ont plus qu'à finir le boulot. Idem au Brésil avec l'arrivée des Portugais. Une arme biologique qui provoque un effondrement des populations et qui est probablement avec d'autres maladies comme la grippe, pour beaucoup dans la facilité avec laquelle quelques centaines de soldats vinrent si rapidement au bout d'empires aussi puissants. En Amérique du Sud, l'usage de la variole n'avait pas été programmé à l'avance, mais plus au nord, dans les colonies britanniques, certains ne vont pas se gêner pour envisager de l'utiliser directement contre les populations autochtones. Ainsi, en 1763, dans la région des Grands Lacs, des colons font face à des Indiens. Le chef anglais suggère à ses hommes de faire parvenir aux tribus des couvertures infestées par la variole. On ne sait pas avec certitude si cela a abouti à contaminer les Indiens, mais l'histoire est avérée, comme l'a raconté France Culture en octobre 2020.
C'est là que la variole a peut-être été utilisée comme arme de guerre, c'est-à-dire volontairement. On est en 1763, les Anglais ont progressé, ils sont maintenant dans la région des Grands Lacs américains, et une confédération de tribus indiennes leur fait face, et ils voudraient bien s'en débarrasser, et le gouverneur de toutes les troupes anglaises en Amérique du Nord, Sir Geoffrey Amherst, écrit, c'est pour ça qu'on en a un témoignage, écrit au colonel qui commande les troupes, Henry Bouquet, et lui suggère un stratagème. Il utilise ce mot de stratagème qui consiste à faire parvenir aux Indiens des linges ou plutôt des couvertures contaminées par la variole. Ça veut dire que la notion de contamination était bien perçue et effectivement c'est un moyen qui peut tout à fait être capable de donner cette transmission par la peau. Le colonel lui répond, je vais essayer, en faisant bien attention de ne pas me contaminer moi-même. On ne sait pas si ça a été fait, si ça a marché, mais très clairement la variole a quand même joué un rôle très important pour décimer les populations amérindiennes et progressivement les colons anglais, puis britanniques, puis européens plus largement vont occuper la partie est des Amériques.
Vous feriez bien d'essayer d'infecter les Indiens avec des couvertures ou par toute autre méthode visant à exterminer cette race exécrable. Lettre du général Amherst au colonel Henry Bouquet.
Redescendons au sud dans les colonies espagnoles. Au début du XIXe siècle, près de 300 ans après l'arrivée du virus, la variole sévit toujours. Cependant, comme on l'a dit tout à l'heure, il existe maintenant une manière de protéger les populations en leur inoculant la vaccine. Mais comment lui faire traverser l'Atlantique jusqu'en Amérique du Sud, voire au-delà, vers les autres territoires espagnols comme les Philippines? Déjà, dans les années 2020, la logistique des premiers vaccins Covid a posé de sacrés problèmes. Vous vous souvenez?
Le super congélateur de conservation des vaccins Covid de Pfizer est quelque part ce midi dans cette base aérienne 181 de Gilo. Sous haute protection militaire, le congélateur sera remis aux autorités sanitaires tout en restant sous grande surveillance. La sécurité reste le maître mot dans cette opération de santé publique.
Sauvé par les super congélateurs transportés sous surveillance de l'armée. Après ça, je dois dire que je ne regardais plus mon frigo de la même manière. Là, on est en 1800, donc ça se fera en bateau. Une véritable expédition est organisée. Elle est placée sous la direction d'un médecin de la cour royale espagnole, le docteur Balmis, dont le nom est passé à la postérité. L'objectif est d'une part d'amener la vaccine dans les territoires espagnols d'Amérique centrale et du Sud, puis jusqu'aux Philippines en plein Pacifique, et d'autre part de mettre en place toute une organisation permettant de conserver la lymphe vaccinale. Lorsque l'expédition est décidée, la vaccine s'obtient encore à partir des bras d'enfants vaccinés à tour de bras, justement. Le nombre d'enfants dont l'expédition a besoin est estimé en fonction du temps à parcourir et non en fonction de la distance à franchir. Balmis va donc réunir 22 orphelins âgés de 3 à 7 ans qui seront vaccinés à tour de rôle et serviront de véritables réservoirs humains. Finalement, je crois que je préfère le super congélateur. Les premiers navires lèvent l'ancre en novembre 1803 et au gré des différentes étapes et des décès des enfants, le groupe sera régulièrement renouvelé avec d'autres enfants orphelins ou directement achetés à leur famille, à Porto Rico ou encore au Mexique, où 26 enfants sont embarqués pour les Philippines que l'expédition atteint au printemps 1805. À Cuba, Balmis n'arrive pas à trouver d'enfants. Pas de souci, il achète 3 enfants esclavisés à leur propriétaire. Il ne faut surtout pas rompre la chaîne, non pas du froid ni de l'esclavage, mais du bras. Les noms des premiers enfants partis d'Espagne sont connus, mais probablement uniquement parce qu'il s'agissait de marchandises dont il fallait justifier le coût d'entretien auprès du comptable. Écoutons par la grâce de Wikipédia Balmis à son retour de l'expédition. Innombrables sont les pesettes que j'ai distribuées aux Indiens pour qu'ils se laissent vacciner et celles employées en jouets pour que les enfants embarqués se divertissent à bord. D'ailleurs, comme nous l'apprend une publication de 2003 de la Société espagnole de pédiatrie, même si les noms des enfants étaient connus, là c'est moi qui traduis, qu'est-il advenu des premiers 22 enfants ? Nul ne le sait. Mais ce n'est pas aventureux que de dire qu'après avoir rempli la fonction pour laquelle ils avaient été choisis, la société les a oubliés. Voilà. La variole puis la vaccine ont fait le tour du monde à la voile en équipage, plus de 200 ans avant celui de la Covid et de son vaccin. D'autres parallèles peuvent être tracés avec l'histoire récente. Dès 1855, dans l'État américain du Massachusetts, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire chez les enfants avant qu'ils soient scolarisés. En France, en 1834, le statut sur les écoles primaires élémentaires rend aussi obligatoire la vaccination des élèves et un contrôle est instauré en 1851. Il est même envisagé la création en 1880 d'un bulletin de vaccine, véritable ancêtre du pass vaccinal. Mais la proposition n'aboutira pas. On pourrait continuer comme ça avec l'accident de laboratoire survenu en Angleterre en 1978. Ça aussi, ça fait penser à la Covid. Mais on va en rester là, sinon je n'aurai plus rien à raconter dans les prochains épisodes. À suivre donc. Allez, santé. 1, 2, 3, 4.